Micro Méga, Patrick Chaupré.
Micro-méga, l'actualité scientifique. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Avec tout à l'heure les derniers résultats scientifiques du satellite Corot, on a trouvé une super Terre. Notre invité Alfred Vidal-Majar, astrophysicien. Et puis dans cette partie de l'émission, chercheurs du Nord et chercheurs du Sud enfin reliés avec la création d'une nouvelle unité de recherche. Mais tout de suite, 1,8 million d'espèces sur la Terre. Comment les classer ? Micro-méga. Autour de ce film, donc, espèce d'espèce, la classification des êtres vivants, l'évolution de la vie sur Terre de manière ludique et scientifique, on en parle avec vous, Caroline Lachowski, rebonjour.
Rebonjour.
Et le réalisateur Denis Van Verbeek et l'auteur Vincent Gaulier, rebonjour à tous les deux. Alors, plus donc d'1,8 million espèces sur la Terre, comment s'y retrouver dans toutes les formes du vivant? C'est la question que vous abordez dans ce film. Ça part d'un désir de classement, on va en parler, ça aboutit à des grandes questions, la place de l'homme dans la création, par exemple.
La Terre est habitée par une colossale variété de créatures. La vie s'est insinuée partout, colonisant les milieux les plus divers. Du pâturage normand au désert glacé, en passant par les forêts tropicales et les circonvolutions de nos estomacs. Combien d'espèces seriez-vous capable de citer ? De mémoire, 10, 100, 1000 ? Selon les estimations, entre 5 et 100 millions d'espèces différentes peuplent la planète. Parmi ces millions d'espèces, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il existe des créatures énormes et d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certaines vivent des siècles et d'autres quelques heures. Et puis, il y en a une qui possède une caractéristique vraiment bizarre.
Nous y voilà, Denis Van Verbeek et Vincent Gaulier. Vous faites donc partie, ben, comme nous, hein, de cette espèce un peu bizarre, mais capable, alors c'est en ce qui vous concerne, vous, de concevoir et de réaliser des films comme celui-ci, Espèce d'espèce, un documentaire réjouissant sur la classification du vivant. Car justement, notre espèce, parmi toutes les autres espèces, est la seule qui a entrepris de mettre de l'ordre dans le monde vivant et de classer le monde, ben, précisément, en espèces. Il n'y a que nous qui avons fait ça.
En fait, quand on en parle aux scientifiques, ils disent pas du tout finalement, puisque toutes les espèces vivantes ont au moins une classification, un minimum de classification basique. Par exemple, on va essayer de classer le monde vivant en ce qui peut nous manger ou ce qu'on peut manger. Donc à la base, pour vivre de toute façon sur Terre, il faut pratiquer un minimum de classification. Donc il y a un petit minimum que tout le monde fait et sans lequel il n'y a pas de vie vraiment possible. Nous, on a poussé le truc un peu plus loin.
Oui, alors déjà on a essayé de définir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce au fond, Vincent Gaulier ?
Alors il y a des réponses qui peuvent durer des livres entiers, parce que ça peut aller de façon très métaphysique dans un cheminement philosophique sur ce que c'est qu'une espèce. Par contre, très prosaïquement, ce sont deux individus qui se reproduisent entre eux et qui ont une descendance qui elle-même peut se reproduire et avoir une descendance, donc une descendance fertile. Après, il y a tout un tas de cas particuliers, mais bon, pour l'instant, tout le monde s'accorde plus ou moins sur cette définition simple et plutôt efficace.
Ce désir de collection, comme ça on le voit dans votre film, hein, vous vous promenez dans des réserves de muséums. Moi j'ai vu celui du Muséum de Londres récemment avec la collection Darwin. C'est un peu effrayant, ça paraît un peu vain non aussi de vouloir mettre tous ces spécimens dans des bocaux de plus en plus grands comme ça. Qu'en pensez-vous ?
C'est vain, c'est l'idée même de la connaissance. C'est-à-dire qu'on accumule des choses, on accumule des individus dans des bocaux ou dans des morceaux de papier pour tout ce qui est végétal. Et un jour ça sert, c'est vraiment cette accumulation de connaissances. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des espèces qu'on pensait être similaires, appartenir à un même nom, et qui s'avèrent être des espèces différentes. C'est parce qu'on a repéré et inventorié dans la nature des individus qui, en fin de compte, s'avèrent différentes. Pourquoi ? Parce que l'analyse génétique, maintenant, intervient dans ce système de classification, d'identification d'espèces, et on se rend compte que deux espèces d'oiseaux qui ont le même bec, qui ont la même couleur de plume, finalement, ne sont pas de la même espèce, donc ne pourraient pas se reproduire entre elles et appartiennent donc à deux espèces différentes.
Dans toutes les collections que vous avez visitées, parmi toutes les bizarreries de la nature que vous avez pu voir, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
Ouais, peut-être c'est effectivement la masse de choses qui est le plus frappante. Après, il y a des choses qui sont rigolotes, il y a des espèces uniques, il y a des espèces disparues qui sont gardées, etc., qui sont tous, c'est toujours un peu émouvant. Mais ce qui est assez fascinant, effectivement, c'est la masse, notamment, par exemple, sur les collections d'insectes, c'est le plus impressionnant, parce que là, il y a vraiment des millions de spécimens. Et c'est vrai qu'il y a cette vision d'aller presque à perte de vue avec des boîtes, avec des milliers et des milliers de petites bestioles à l'intérieur.
Et il y en a toujours plus, et elles sont différentes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce de côté maniaque comme ça, mais qui correspond à un truc général qu'on a, qui est essayer de mettre de l'ordre dans le monde, et jusque dans les plus petits détails, jusqu'à essayer de mettre chaque chose à sa place. C'est un truc très humain, quoi.
Et alors l'homme, justement, il est où dans cette classification réponse ?
Je suis donc un homo sapiens. J'appartiens à l'espèce sapiens, dans le genre homo, qui fait lui-même partie de l'ordre des primates, lequel appartient à la classe des mammifères, qui fait partie à son tour du règne animal. Aujourd'hui, le principe est le même, mais on a ajouté un tas de rangs supplémentaires. Sous-genre, infra-ordre, super-famille, etc., etc.
On a très souvent, très longtemps, pensé que l'homme était au sommet de la création, l'aboutissement de toutes les autres espèces. Dans votre film, on voit bien qu'il n'en est pas question, finalement, en ce moment. C'est plutôt ça, l'optique du moment, Vincent Gaulier.
C'est l'optique, et c'est surtout l'une des raisons du film. C'est-à-dire, c'est bien de rappeler ce qu'on ne veut pas savoir, on veut ignorer, qui est que Homo sapiens, l'homme, n'est qu'une espèce parmi les 1,7 million d'espèces connues aujourd'hui.
Mais enfin, vous faites des films, vous avez une réflexion, une parole, toutes les espèces n'ont pas ça.
Non, mais il y a des bactéries qui sont capables de se reproduire toutes les 6 secondes, qui sont capables de supporter une bombe thermonucléaire. Vous ne pouvez pas le faire, vous, je ne crois pas.
Mais tout de même, au fil des siècles, la représentation justement de l'homme, elle a beaucoup changé. Au départ, on était absolument au sommet et au-dessus de tout, et même pas dans la création d'ailleurs. Et puis Darwin est arrivé, il y a eu une échelle, un arbre de l'évolution. Enfin, l'homme, il était toujours en haut, l'aboutissement de cette évolution, justement.
C'est-à-dire qu'en fait, dans la vision classique, vraiment avant le 18e siècle, donc il y a à l'échelle des êtres, avec effectivement cette espèce d'échelle donc qui part des organismes les plus simples et qui va jusqu'à l'homme. Et après, avec le 18e siècle, et puis avec Darwin surtout, il y a une vision différente où la classification, elle devient quelque chose qui se base sur la généalogie, sur la notion d'apparentement. Mais malgré ça, cette idée qu'on soit fasse partie de la même histoire que toutes les autres créatures vivantes, finalement, elle met très très longtemps à imprégner vraiment les mentalités. Elle nous dérange toujours. Et elle est toujours pas vraiment acquise, parce que je pense que l'image qu'on a tous de l'arbre du vivant, c'est encore quelque chose de plus ou moins pointu avec nous en haut. Quand on en parle, je veux dire, aux gens, c'est un chêne.
C'est un
alors
chêne.
Que ça ne devrait pas être un
bien.
Chêne.
Et non,
il n'y a pas de pointe, c'est quelque chose de sphérique où en gros on est dans une banlieue à la même place que n'importe quelle autre espèce.
Un buisson foisonnant.
À l'extrême périphérie. Hein.
L'arbre de la vie, il faudrait le dessiner plutôt comme ça. Un buisson sphérique, sans tronc aucun, qui ne pousse pas vers le haut, mais dans tous les sens. À la place d'un chêne, on se retrouve avec un buisson taillé en boule.
Un buisson taillé en boule. C'est-à-dire qu'à la place de cet arbre, on se retrouve avec un arbre en rond qui n'a ni début ni fin, qui a plein d'embranchements, et dans lequel l'homme se trouve à l'extrême périphérie, comme la bactérie dont on parlera tout à l'heure.
Voilà, et donc il y a en effet toutes ces branches. Parfois, il y en a des plus courtes. Elles ne disent pas que ça veut dire que l'individu au bout, l'espèce au bout, est moins évoluée. Elles veulent juste dire qu'elle a disparu. Donc on aura les classiques dinosaures, mais on aura aussi tous ces animaux sur lesquels on ne met pas vraiment de nom, parce qu'on a trop peu d'échantillons au niveau des fossiles, et qui ont disparu il y a 10, 100, 200 000 ans d'années. Et voilà, et donc on est comme ça sur ces branches de Madeleine Longueur. Et donc, une fois de plus, c'est vraiment. Le film répète tout le temps cette idée, c'est que les espèces vivantes, elles ont toutes la même longueur de branche à partir du point de départ.
C'est-à-dire qu'au fond, il y a des branches, l'homme est au bout d'une de ces branches, de même que les grands primates sont au bout d'une de ces branches, et puis vous remontez comme ça la branche jusqu'à un tronc un petit peu plus large, et ça nous fait à chaque fois, comment dire, des embranchements et des multitudes de cousins aussi.
Ouais, c'est-à-dire que c'est un arbre qui est en expansion, donc en fait, la périphérie et la surface extérieure de l'arbre, c'est le point actuel, c'est 2009, c'est maintenant, et en fait, au centre, il y a par contre un début qui est en fait l'ancêtre commun à toutes les créatures qui vivent maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est la première créature qui ait existé, il y en avait sans doute d'autres avant, mais c'est le plus récent ancêtre qui soit à la fois dont je descends de moi, mais dont la laitue ou le cloporte descendent aussi.
L'être humain lui-même, vous le dites et vous le montrez très bien, à l'état fœtal, quand il se développe, on voit très bien qu'il est passé par plusieurs stades et par d'autres embranchements.
En effet, c'est quelque chose qui aide beaucoup les scientifiques, c'est le développement embryonnaire, donc au niveau du fœtus. On a vraiment comme ça une histoire évolutive qui se raconte. Alors c'est une histoire approximative, ne retombons pas dans les travers du 19e siècle où on était sûr que c'était réellement ça, et il y a des scientifiques qui se sont fait épingler pour avoir transformé les images de ces embryons pour coller à leur théorie. Ça nous donne juste une idée, ça nous donne une idée que apparaissent d'abord les membres, puis apparaissent après les doigts, et que c'est bien dans cet ordre-là que l'histoire évolutive depuis la première bactérie a évolué. Et donc là, ça semble évident dit comme ça, sauf que sur d'autres éléments, ça l'est beaucoup moins, savoir quand est-ce que le poumon arrive avant ou après tel autre organe, ça nous donne une idée, un ordre conducteur des choses.
Et ça nous rappelle que nous avons une multitude de cousins sur cet arbre de l'évolution, et là, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu amusé.
À l'embranchement suivant, voilà des cousins dont les nageoires ne sont pas charnues. Un peu comme si leurs doigts étaient fixés directement au tronc. Je suis un ostéichthyen, comme la sardine et le saumon d'Écosse, parce que je possède de véritables os au lieu d'un simple cartilage. C'est à ce niveau que le nombre de mes cousins double d'un coup et atteint les 50 000. 50 000, un chiffre impressionnant, mais finalement assez modeste en regard des millions d'espèces qui peuplent la planète et des 10 000 nouvelles qu'on découvre chaque année.
Avec vous, Denis Van Verbeek et Vincent Gaulier, donc dans ce buisson foisonnant de l'évolution des espèces, avec votre film Espèces d'espèces. C'est facile à vendre un film comme ça, parce qu'au départ on dit l'évolution, les espèces, à l'arrivée ça donne quelque chose de très vivant, où on comprend plein de choses, mais au départ, quand on arrive avec cette idée, comment on est reçu?
Ben non, au départ, c'est vrai que quelqu'un nous a dit vers les débuts du film, oh là là, un film sur la classification ou sur la taxinomie, ça va pas faire hurler de joie les diffuseurs. Mais c'est ça qui était rigolo aussi. Il a l'air d'avoir un côté un petit peu poussiéreux. On imagine aussi effectivement des rangées de boîtes. Et puis en fait, bon, dès qu'on regarde le truc d'un peu près, on s'aperçoit que déjà c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, et c'est quelque chose aussi qui nous concerne directement. Voilà. Parce qu'à travers donc la façon dont on se relie à ses cousins du monde vivant correspond en fait aux différents aspects de notre corps, c'est-à-dire que chaque particularité physique du corps humain, elle va créer un lien en fait avec une espèce ou un groupe d'espèces du monde vivant. Alors on peut citer, on les exemples sont dans le film, ouais. On peut citer le pouce qui est l'exemple classique qui nous relie à l'ensemble des primates, mais aussi la colonne vertébrale qui nous relie à tous les bilatériens, le fait d'avoir des nageoires charnues, parce qu'on a des nageoires charnues qui nous relient aux sarcoptérygiens, donc tous les poissons à poumons.
Vous avez des nageoires charnues?
J'ai des nageoires charnues.
Tout ça, voilà, ça.
Les voilà.
C'est la main, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre de la main, c'est ça?
En fait, on s'est amusé avec ça parce que c'est un terme un petit peu technique qui décrit les membres donc des sarcoptérygiens qui, contrairement aux poissons ordinaires, j'allais dire, n'ont pas les doigts reliés directement au corps, mais ont en fait une espèce d'appendice qui permet d'éloigner les doigts du tronc, et qui au départ était une nageoire, donc, mais qui s'est transformée par la suite en bras, en jambes et choses de cet acabit.
On se rend compte quand même que les hommes sont particulièrement complexes, justement. Il y a quelque chose qui nous relie à tous nos cousins, quelque chose qui nous relie aussi à cet ancêtre qu'on a tous en commun, d'où son nom, Luca. Luca, ça veut dire Last Universal Common Ancestor. On a tous un ancêtre commun, ça c'est sûr.
On a tous un ancêtre commun. Il y a peut-être eu d'autres formes de vie qui ont existé sur Terre, dont on n'a pas regardé la trace. Par contre, le plus vieux grand-père qu'on ait, qui soit commun, c'est cette idée même de Lucas. C'est une sorte de concept qui raconte qu'on descend tous forcément de quelqu'un. Après, est-ce qu'un jour on va mettre le doigt sur lui? Personnellement, je ne pense pas, puisque l'idée vraiment c'est de remonter le plus loin possible. Donc chaque fois qu'on aura trouvé quelqu'un, on va se demander de qui est-il le fils,
de Luca,
qui descend-il. Donc forcément on va remonter, mais c'est ce que disait Denis, c'est l'une des choses les plus foisonnantes qui est aujourd'hui dans cette recherche-là. C'est-à-dire que du coup, on parle de classification, mais on discute avec des microbiologistes, on discute avec des généticiens, on discute avec des gens qui apparemment ne font pas partie de cette idée-là qu'on ait de la classification, mais qui font que c'est une activité excessivement dynamique qui rend renvoie vers tout cet apparentement. Et donc, là, plus on remonte, moins c'est visible. Mais par contre, voilà, juste avant de rencontrer Lucas, c'est toutes les bactéries, toutes les archébactéries, donc qui sont ces nouvelles sortes de bactéries qu'on a découvertes récemment. Bah, grossièrement, le point commun, c'est d'avoir de l'ADN, c'est d'être une espèce vivante qui se reproduit.
Et donc, qui sont comme nous, qui font partie de l'évolution. Sommes-nous plus évolués que ces bactéries ou pas? Ben, un extrait tout de suite qui met en scène nous, un homo sapiens, et puis une bactérie, elle s'appelle Pyrococcus, je crois.
Que de chemin parcouru entre ces choses microscopiques-là et moi. Faut reconnaître que la nature a fait un boulot extraordinaire. Bon, ça lui a quand même pris 3,5 milliards d'années, mais ça valait le coup d'attendre.
Oula, oula, je vous arrête. En termes d'évolution, moi, Pyrococcus, je suis aussi éloignée de Lucas qu'Homo sapiens. Il a fallu exactement le même temps pour arriver à nos deux formes de vie. Moi aussi, je pourrais dire que de chemin parcouru entre ce gros machin polluant et tarabiscoté, là, à gauche, et moi, Pyrococcus. Il se plaint dès que la température monte au-dessus de 40. Son taux de reproduction est ridicule. Et il ne parvient à se nourrir qu'en avalant d'autres créatures vivantes. Bref, disons-le, la survie provisoire de cette drôle d'espèce est une véritable énigme de la nature.
Nous y voilà, heureusement que la survie de l'homme reste une énigme. Il y a quand même toujours une énigme, même si l'homme n'est pas le plus évolué. Ben, sa survie est une énigme par rapport à ces bactéries qui sont bien plus fortes que nous, finalement.
Ouais, ce qu'on voulait montrer en faisant ce petit dialogue, c'est que finalement, l'idée d'évolution, elle est très très subjective, parce que, bon, pour nous, ça nous paraît évident qu'on est plus évolué qu'une bactérie. On a un cerveau très gros, on fait des tas de trucs, on fait des films, on fait de la radio, on fait des tas de choses, mais finalement, on essaie de se dire aussi, bon, ben, mettons-nous à la place de la bactérie, et puis voyons ce qu'on en pense. Peut-être que on peut avoir un point de vue de bactérie qui serait complètement opposé. C'est vrai qu'on est quelque chose de très très compliqué, de pas du tout efficace, qui se reproduit pas très bien, qui a beaucoup de mal avec les conditions atmosphériques, dès que ça change, on n'est pas bien. Alors que d'un point de vue de la pure efficacité reproductive, la bactérie...
Oui. Et puis au fond, c'est des stratégies de vie qui sont différentes, finalement, c'est ça. Puisque si l'évolution, au fond, c'est une question de survie, c'est celui qui va vivre se reproduire le mieux.
En effet, c'est ça ce que raconte le film, c'est-à-dire qu'il y a 1,7 million de branches différentes. Ça veut dire aussi, en exagérant un peu, qu'il y a 1,7 million de stratégies de vie différentes. Alors bien sûr, il y a des grands groupes. La reproduction des mammifères fait que d'un seul coup, on a quand même plusieurs milliers d'espèces dedans. Et de même, pour les insectes, on a plusieurs centaines de milliers d'espèces. Mais c'est vrai que c'est cette multiplicité des stratégies qui fait qu'on peut arriver à trouver, en effet, une façon de vivre dans des situations qui ont changé. Alors après, c'est toujours le problème un peu didactique de déterminisme. Est-ce que c'est parce qu'on tire le coup qu'on arrive à manger les feuilles qui sont en haut de l'arbre? Enfin voilà, donc ça, on est toujours à ce niveau-là pour le grand public dans ce débat-là. Mais en effet, c'est ça, c'est des stratégies de vie et c'est cette capacité à changer. C'est pour ça qu'on accroche beaucoup sur l'histoire des bactéries, c'est qu'elles n'ont pas une stratégie qui semble être très évoluée d'un point de vue subjectif, sauf qu'elles ont un ADN qui est modelable et qui peut se réarranger énormément différemment. Et du coup,
elles s'adaptent à tout.
Voilà. Grâce à Darwin, dont c'est d'ailleurs le double anniversaire, on va évidemment en parler pendant toute cette année, on a donc commencé à comprendre que toutes les espèces étaient reliées, ce que vous montrez très bien dans le film. Est-ce que ça a changé vous-même, votre regard sur vous-même et sur la place de l'homme, par exemple, à force de réaliser, d'écrire ce film?
C'est beaucoup plus difficile de manger une carotte maintenant qu'on sait que c'est une cousine, mais ça va, on s'habitue tout de même. Non, plus sérieusement, je pense que ce qu'on a réalisé et qui est un petit peu difficile à raconter, peut-être à faire passer, c'est pas tant qu'on est équivalent à une bactérie qu'on est pareil. Bon, évidemment, il y a des différences, on n'est pas la même chose, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on n'est pas le fruit d'une évolution nécessaire vers une direction. C'est essayer de pas penser en termes téléologiques. C'est qu'on est quand même vraiment le produit du hasard, quoi. On aurait pu être autre chose, on aurait pu ne pas être du tout, et il n'y a pas une obligation d'évolution vers le plus complexe et vers l'intelligence. Ça n'existe pas.
Mais il y a quand même une note assez optimiste, notamment à la fin de votre film, parce que justement, vous nous dites, un des chercheurs nous dit, mais quelle chance on a d'exister finalement. Et c'est vrai que ça ressort aussi, on se dit, mais finalement la vie, c'est un miracle. hein, quand même. Hein.
C'est vraiment un hasard. C'est-à-dire qu'à chaque embranchement, il a fallu en effet un concours de circonstances pour que les espèces apparaissent, qu'il y ait des divergences et que des embranchements apparaissent. Et donc, en effet, je pense que statistiquement, c'est un événement qui ne se reproduira jamais. Donc, moi, c'est ça que je tire de cette histoire du film. C'est en effet cette probabilité quasi nulle que nous soyons là aujourd'hui à pouvoir raconter le film.
Merci à tous les deux. Le film s'appelle Espèce d'espèce. Vous l'avez compris, il est diffusé ce lundi sur France 5 à 20h35. Ensuite, les 18 février et 23 février sur Arte et sur TV5 ensuite.
La conclusion, eh ben, elle est signée du poète Alexandre Vialat.
L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif. Ou même songeur. Disons un salsifis songeur. Soyons sincères. L'homme est un champignon rêveur.
Les chercheurs des pays du Sud seront-ils moins isolés? Un outil scientifique, ou plutôt un lien entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud, vient d'être créé officiellement entre le CNRS en France et puis des structures de recherche en Afrique de l'Ouest. Cela s'appelle l'UMIS, l'unité mixte internationale environnement, santé, société. L'accord a été signé le 15 janvier dernier. Tout cela est narré par Michel Diaz.
C'est l'aboutissement de relations étroites entre chercheurs du Nord et du Sud, l'officialisation d'échanges entre ici, c'est-à-dire le CNRS, et là-bas. Là-bas représentant un ensemble d'éminents chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique de Ouagadougou au Burkina Faso, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal ou de l'Université de Bamako au Mali. Alors pourquoi la création d'une première unité scientifique entre la France et l'ouest du continent africain? Début de réponse avec Lamine Gueye, professeur de physiologie à l'université de Dakar.
Nous sentons la nécessité absolue actuellement pour faire avancer la recherche en Afrique d'unir nos moyens. Nos moyens dans le cadre d'une collaboration nord-sud du CNRS et nos universités, mais aussi une collaboration sud-sud qui met en commun les compétences mais aussi les ressources. Parce que l'UMI va répondre à des appels d'offres internationaux. Et pour peser lourd dans ces appels d'offres internationaux, il faut qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires, transdisciplinaires, mais aussi des chercheurs compétents. Par exemple, nous, dans notre équipe à Dakar, nous travaillons sur les migrations et les vieillissements des populations, mais aussi sur l'épilepsie. Si l'équipe sénégalaise constituée de 5 chercheurs soumet à un projet, ce n'est pas pareil qu'une équipe qui unit les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés et les Français.
Entre Nord et Sud, les collaborations sont nombreuses et aboutissent à des résultats concrets. Seul ombre au tableau, l'Afrique subsaharienne. Gilles Butch, directeur de recherche au CNRS et tout nouveau directeur de l'UMI, a constaté ce manque.
Alors, évidemment, ça dépend des disciplines. En physique nucléaire, c'est dur de faire des collaborations. Quand les collègues africains veulent collaborer, ben ils vont plutôt en Suisse, au CERN, vous voyez, ou en France ou ailleurs. Mais là, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était de partir sur deux considérations. La première, c'est qu'effectivement, il y a un déséquilibre entre le Nord et le Sud en termes de chercheurs et de potentialités de recherche. Deuxièmement, il y a des sujets qui sont devenus des sujets aujourd'hui, on va dire, mondiaux. Nous, on va développer quelque chose autour de l'environnement, la santé, la société. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés d'augmentation de la température va avoir des conséquences qu'on a du mal à mesurer, imaginer.
La pollution et son impact sur la santé, la pathocénose, c'est-à-dire l'étude de l'environnement, des maladies parasitaires et virologiques, et les modifications par l'homme, ou encore le vieillissement et l'impact des migrations, mais aussi les organisations en matière de structures hospitalières et la transfusion sanguine, autant de thèmes sur lesquels ces équipes se penchent déjà, mais séparément. Créer des laboratoires mixtes et s'impliquer sur des sujets globaux, c'est l'objectif de cette nouvelle unité, la Mingay.
Une équipe isolée à Dakar ne suffit pas. Il faut que, par exemple, nous qui travaillons sur le domaine de la santé, nous soyons complétés par l'équipe d'anthropologie biologique de Marseille, par l'équipe de sociologie de la faculté des lettres. Nous ne pouvons pas faire une approche en faisant la recherche sur le vieillissement, par exemple, sans intégrer les aspects sociaux. Or, ces aspects sociaux, les médecins ne sont pas formés pour les prendre en charge du point de vue des protocoles de recherche. Nous pouvons étudier les maladies chroniques. Nous sommes actuellement engagés, par exemple, à voir l'incidence du diabète, de l'hypertension artérielle, des rhumatismes sur la qualité du vieillissement. Mais nous avons besoin, pour tenir compte des facteurs sociaux, d'avoir la collaboration des sociologues et des anthropologues.
Aujourd'hui, Gilles Butch est à la tête de l'UMI, une responsabilité qu'il partagera tour de rôle avec ses homologues africains.
Merci Michel Diaz, et si vous avez des réactions sur cette unité de recherche, donc il va faire le lien entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud, n'hésitez pas à nous écrire à micromega@rfi.fr. Micromega, l'actualité scientifique, on va rentrer quelques minutes en fugue cryotechnique et on se retrouve juste après le journal.